Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Archives, dépoussiérer la machine et enclencher la fonction aléatoire du jukebox littéraire de Radio Nova afin de piocher parmi les 6700 lectures effectuées depuis la création de la Bookbox en septembre 2011. Prévoir un bon fauteuil, se servir un rhum ambré et appuyer sur « Entrée ». Apprécier le grincement familier des rouages, des pistons et des turbines et voir ressurgir du passé des textes et parfois d'étonnants lecteurs au hasard. Le tout accompagné de raretés musicales exhumées des entrailles de notre station. C'est le programme de ce soir, que la mémoire vive. Bonsoir, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez du lundi au jeudi de 21h à 22h, tel un phare dans la nuit. Je me tourne donc vers la Bookbox. Alors, ma grande, quelle lecture vas-tu nous proposer en premier? Après toutes ces années, t'as bien mérité un petit coup de polish. Allez, hop. On frotte. Ah, bijoux. Voilà, j'appuie là-dessus. Formulaire A38, protocole Z, verrouillage du système auto, passé en pilotage manuel, ok, voilà. Période concernée 2011-2017, intégralité du corpus, mode aléatoire. Est-ce que tout est bon? Bon, moi j'ai toujours un doute avec ces appareils, d'autant que des machins comme ça, je vous garantis qu'il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Mais bon, là, ça a l'air de tourner. Paf, c'est parti! Voilà, bon, bah, là ça cherche, hein, ça charge. Faut patienter un peu. En général, c'est pas long, hein. Je vais peut-être vous mettre une petite musique d'ambiance. C'est sympa, c'est un truc que j'ai composé ce week-end avec des copains brésiliens. Bon, c'est pas tout ça. Titine, on a du monde là. Est-ce que tu peux envoyer la première lecture? Que savons-nous des derniers jours sur Terre de Sa Majesté Prince? Comment expliquer une disparition aussi brutale? Qu'en est-il de la légende d'un requiem composé pendant plus d'une centaine d'heures de travail, et cela sans dormir? Voici un joli bouquet de certitudes et d'habiles suppositions, collectées par le journaliste français Alexis Tain, auteur de nombreux articles sur Prince, notamment pour les Inrecuptibles. Alexis Tain qui publie cette semaine une biographie de Prince à paraître jeudi aux éditions La Découverte et intitulée « Le signe noir ».
Nova Book Box, des bouquins à la louche, lus à la bouche.
Le dimanche 17 avril, à la question d'un fan,
Qu'est-ce que tu nous as fait à Atlanta ? Prince répond sur Twitter. Je n'ai presque pas dormi depuis cette nuit-là. Avant d'apposer d'ésotérique hashtag, Prince est en pleine forme, il se sent rajeuni, aimé et dort à peine. Que fait-il de ses journées ? Un peu de vélo, on l'a vu, ainsi que des achats dans un magasin de disques. Comment passe-t-il ses nuits blanches ? Une présence de 20 minutes à sa dance party, une autre au Dakota Jazz Club à Minneapolis. Prince ne joue pas ce mardi 19 avril. D'une table dressée au balcon, il assiste au concert de la chanteuse de jazz américaine Liz Wright. 20 minutes par-ci, une heure par-là, de courtes apparitions dont il est coutumier. Et le reste du temps, s'est-il maintenu éveillé 154 heures pour travailler, comme l'aurait prétendu son beau-frère, Maurice Phillips, avant de se rétracter, comme l'on aimerait que l'histoire fût vraie. Je n'ai presque pas dormi depuis cette nuit-là. Prince chez lui, tout seul, travaillant, à l'approche de la mort et sans le concours d'aucun musicien, a enregistré son propre requiem. Le lutin malicieux, enfermé en studio, passant des claviers à la guitare, de la batterie à la basse, avant de plonger la pièce dans le clair-obscur d'une bougie parfumée à la lavande pour enregistrer sa voix. Quelle tête fait-il quand de sa poitrine s'échappe la note bleue qui donne cette couleur si chatoyante à son chant ? Pour le croyant, la tentation est grande d'adhérer à la fable. Mais le beau-frère lui-même n'a-t-il pas infirmé son témoignage ? Et puis, aussi aguerri fut-il, toute séance d'enregistrement aurait été assistée d'un ingénieur du son. Difficile d'être à la fois devant et derrière la console. Et un ingénieur du son, une fois le contrat de confidentialité rompu par la disparition du donneur d'ordre, ça témoigne. De la même façon qu'aucun employé n'a confirmé l'existence de ces prétendues séances d'enregistrement avec Miles Davis, nul entourage ne s'est manifesté après sa mort pour avérer l'existence de séances les jours la précédant. A-t-il mis de l'ordre dans son « vault » cette pièce coffre-fort dont il était le seul à connaître la combinaison du digicode ? S'est-il frayé un chemin parmi les kilomètres de bandes qui jonchent les armoires et les étagères, disposées parfois à même le sol ? Près de 40 ans d'une vie retranscrite sur bande magnétique, sur disque dur, enregistrement studio ou en provenance directe des tables de mixage de ses milliers de concerts, répétitions, balances et idées jetées dans l'ombre d'une suite de palaces, d'une maison à Los Angeles ou d'un appartement parisien. On touche là au cœur de la mythologie. Le saxophoniste Eric Leeds a donné un ordre de grandeur sur l'épaisseur de ce qui dort dans le « vault ». Pour une chanson sortie dans le commerce, le musicien témoigne avoir participé à l'enregistrement de 20 à 25 autres titres non publiés. Difficile de donner un chiffre exact, même si, comme en témoigne l'enquête menée pour la BBC par le journaliste Mobin Hazar, le chiffre de 2000 titres inédits est avancé. Un trésor que ne manqueront pas d'exploiter les ayants droit, à supposer que la vétusté des bandes magnétiques le leur permette, et qu'ils s'entendent pour définir une stratégie cohérente de parution. Le fan peut se consoler en écoutant en boucle l'équivalent de 35 CD de musique studio inédite, donnant la mesure du nombre de chansons inédites qui ont fuité. D'abord sur cassette et en vinyle, puis sur CD, ces témoignages sonores, diffusés en marge de l'histoire officielle, ont fini par remplir plusieurs téraoctets sur nos disques durs. Je compte, sur mon iTunes, 1313 albums de Prince, soit la possibilité d'écouter sa musique jour et nuit, durant plus de 77 jours. À l'heure où ces lignes sont rédigées, sur les 1294 titres enregistrés en studio et répertoriés par le site référent princevault.com, 438 sont restés inédits.
Nova Book Box. Allez, sois chou, lis-moi un bout.
L'auteur de cet ouvrage sur Prince, Alexis Tain, était il y a peu l'invité du Nova Club de David Blow pour évoquer la sortie, vendredi prochain, d'une compilation d'inédits du Kid de Minneapolis, Prince Originals. 15 maquettes de chansons que Prince a écrites pour les autres. Sur cet album figure une ballade romantique que Prince a offerte en 1991 à une interprète américaine du nom de Marquita. Voici sa version, la version de Prince. Son titre, Love, Thy Will Be Done. Bookbox, pourrais-tu de nouveau actionner tes rouages pour sélectionner parmi les archives de l'émission une nouvelle lecture ? Qu'est-ce que le comique ? Pourquoi est-ce que je suis seul devant vous pour vous faire rire ? Se demandait il y a 10 ans la comédienne Laetitia Doche, née en 1980, vue dans la bataille de Solferino, dans Jeune femme, et bientôt dans le film Passion simple de Daniel Arbide, d'après le roman autobiographique du même titre, signé Annie Ernaux. Laetitia Doche est une comédienne rare et excentrique, qui figura d'ailleurs, sous cet adjectif fort approprié, en couverture des Cahiers du cinéma, pour lesquels elle écrivit des textes très inspirés sur l'art de l'acteur, chez Joaquin Phoenix, Sabine Azéma ou Didier Bourdon. Laetitia Doche est également, on le sait trop peu, l'autrice de spectacles drôlement improbables, comme par exemple Eight, duo pour une femme nue et un cheval, où elle évoque la condition animale, spectacle qui continue sa chevauchée à travers l'Europe. Elle sera notamment du 28 août au 1er septembre à Lausanne, en Suisse, pour des représentations en plein air sous les cerisiers. En 2008, elle co-signait le spectacle « Laetitia fait péter », co-écrit avec Anne Stephens, qui interrogeait les limites du rire, un peu comme Andy Kaufman. Laetitia Doche était venue dans la bookbox en parler pendant deux heures tout à fait joyeuses. Extrait.
Tu préfères les pépitos ou les petits écoliers, toi? Parce que moi, j'aime les deux.
Et voilà, c'est la première imitation de la soirée. Un handicapé mental, mesdames et messieurs! Alors d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens en fauteuil roulant dans la salle? Bon, normalement, ils sont devant, hein. À moins qu'il y ait des cascadeurs. Vous allez me répondre, bande d'handicapés ? Non mais je plaisante, hein. Moi, les gens en fauteuil roulant, j'ai rien contre eux. Hein. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très beau, le moyen qu'ils ont trouvé pour se faire remarquer. Ils sont pas contentés de mettre des jeans moulants comme les PD, ils ont bossé les mecs, hein. C'est les plus visibles des minorités invisibles. Ils ont envoyé le matos et toute la gestuelle qui va avec. Je me mets souvent à leur place. À leur place de parking! Non mais je plaisante, hein, j'ai pas de voiture. Mais par contre, je vais dans leur toilette. Wouah! C'est la caverne d'Ali Baba. Eh oh! Oh, un lavabo! Oh! Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est pour se tenir! Non, mais ça m'agace un peu parce qu'on leur fait des entrées spéciales et des tarifs spéciaux et ils sont jamais foutus de venir, quoi. Des paresseux. On sent mieux qu'ils sont pas handicapés par hasard, hein. C'est qu'ils l'ont bien voulu. Ah, par contre, comptez pas sur moi pour faire des blagues sur les manchots parce que j'en connais un et je l'aime beaucoup, il a le cœur sur la main. Ouais, voilà, je suis désolée pour ceux qui aimaient ça, mais c'était ma dernière blague pour ce soir sur les handicapés. Oh! Et c'était vraiment ma dernière blague pour ce soir sur les handicapés. Allez, tout le monde ensemble! Oh! Voilà!
Oh, encore! Et ça dure comme ça pendant 46 minutes. Vous enchaînez les sujets qui sont considérés comme politiquement incorrects, les religions, les pédophiles, les blagues machos, j'en passe, tout en tournant, et c'est l'intérêt de la chose, en ridicule l'acte même de faire rire, avec des fausses interpellations au public, la fausse connivence avec les spectateurs, des vannes faussement improvisées, un spectacle engagé qui dénonce, un artiste dont le but serait de choquer gratuitement, et même le trou de mémoire, où votre comique se dérègle soudain, ne sachant plus comment faire rire ni pourquoi, et vous allez jusqu'à repousser les limites du ridicule, avec une danse, vous vous dénudez, il y a des grimaces jusqu'à l'outrance, et vous testez les limites du public, en n'hésitant pas à uriner sur scène, vous voterez dans votre pipi, et vous proposez ensuite une bise à un spectateur plus ou moins réjoui. Pour moi, je vous le dis franchement, hein, c'était brillant, ça l'est encore plus en le revoyant, parce qu'après on peut plus revoir un spectacle de stand-up normal, parce qu'on voit tout de suite les intentions des comiques. Alors, je parle pas des très bons, mais souvent, les gens un peu moyens, on voit, soit par exemple, les gens qui veulent choquer gratuitement, ils vont tout de suite sur ces sujets et ils cherchent, ils osent pas trop choquer ou quoi que ce soit et ils s'arrêtent en route. Donc, vous vous êtes dit, moi, j'y vais jusqu'au bout, mais je me suis demandé combien de fois vous l'avez joué, ce spectacle?
Bah en fait, je l'ai joué que 20 fois,
c'est
pas beaucoup, parce que personne ne voulait le programmer à chaque fois. Les gens ils étaient tout contents à le voir, mais les programmateurs, ils étaient contents, mais ils ne programmaient pas, c'est vrai.
Parce que je me suis
vous avez un peu la trouille.
Ouais, c'est ça. Je me suis dit, est-ce qu'on peut le voir sans bagage théorique, sans savoir que justement on va voir une sorte de méta-spectacle qui est une sorte de réflexion sur l'idée de rire, parce que puisque vous allez tellement loin, Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un public comme ça, mais il faudrait un public averti. Je me demandais si vous avez eu des réactions de gens qui ne comprenaient pas du tout, qui prenaient tout au premier degré.
Mais c'est génial s'ils prennent tout au premier degré. En fait, ce qui se passe, c'est que même les jours où vous êtes venus, il n'y avait pas que des intellectuels qui avaient lu le journal. Donc, enfin, je veux dire, dans le sens où ils expliquaient tout dans le journal. Alors, voilà. Mais ça fonctionne un peu en caméra cachée. Donc, là, la première fois que je l'ai joué, c'était aux Urbaines. Donc, c'est un festival gratuit. Donc, il y a plein de gens qui ne vont jamais au théâtre, qui viennent voir ça. Et puis, personne ne savait ce que je faisais à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait un accueil. Des gens qui riaient et des gens très très froids. Et plus les gens étaient froids, plus les autres riaient. Enfin, ça créait une atmosphère dans la salle où les gens étaient très tendus. Et il y a même un homme qui s'est levé qui a dit « Je suis juif, handicapé, j'ai le sida et je m'en vais.
Wow. »
Et là, il a fallu que je réponde parce qu'il faut récupérer les gens. J'ai appris ça en regardant Florence Foresti. Donc j'ai dit « On l'applaudit bien fort » et toute la salle a applaudi. Et donc, au contraire, ça marche bien sur des gens qui ne savent pas ce que c'est parce que ça les oblige à penser ou à ressentir. Ils sont plus dans ce qu'ils ressentent sur le moment.
D'où ça vient ce spectacle? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est-à-dire que vous voyez des spectacles de stand-up et vous vous dites qu'il faudrait peut-être faire un je sais pas comment le dire autrement, un objet théorique pour réfléchir sur l'acte même de faire rire?
Non, en fait, en réécoutant les extraits, là, la plupart des blagues que vous avez mises, c'est des blagues de mes amis.
Mm-hmm.
Donc des blagues de soirée, des blagues de connivence entre amis. Et je me dis, si on les mettait sur scène devant un public, est-ce qu'on oserait rire? C'était plutôt ça qui m'intéressait. Après, c'est très drôle. Moi, ce qui m'amusait surtout, c'était de faire une comique amateur qui est pas très bonne, qui fait des erreurs de rythme, qui a des trous, dont les blagues sont pas très très bonnes, pour montrer en face le public qui attend. Qu'est-ce qu'il attend en fait? Pourquoi est-ce qu'il vient voir un spectacle drôle? Pourquoi?
Pourquoi, à votre avis?
Bah, ça dépend. Moi, par exemple, je regarde beaucoup Louis C.K. et Louis C.K. c'est quand même plus que du comique, c'est aussi presque de la philosophie. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu gourou chez lui, vous voyez.
Oui, comique américain, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas, qui est depuis une dizaine d'années.
Très intelligent.
Extrêmement intelligent, de 45 ans, middleman occidental, qui accompagne le récit de sa vie quotidienne par de grandes réflexions sur qu'est-ce que c'est d'être un homme aujourd'hui,
avec
deux enfants célibataires, et sur le plan presque parfois métaphysique, avec une grande empathie aussi pour tous les gens qui l'entourent. Voilà.
Exact, mais par contre, hyper cruel. Hein.
Et très cruel, bien sûr.
Ouais. C'est ce qui n'empêche pas. À ce niveau-là, de Louis C.K., ça emmène à un endroit où on en vient à rire de soi, un endroit qui fait mal et qui libère.
Nova Book Box, particulièrement élémentaire.
Au rayon, ça fait rire et ça fait mal. Je peux déclarer, devant des policiers assermentés si nécessaire, que parmi les chansons préférées de Laetitia Doche, cette comédienne que vous venez d'entendre, figure la chanson qui vient, là. Elle s'intitule « Le sex appeal de la policière ». On la doit au Nantais perruquier de Sexy Sushi, c'était en 2011, c'était chaud. Vous écoutez toujours la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, une émission ce soir entièrement construite à partir d'archives un peu rares, marrantes ou bizarres, des textes piochés parmi 6700 lectures. J'enclenche à nouveau la roue de la fortune littéraire. Oh, Nova Book Box, tourne, 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 et dis-nous de quoi il retourne. Faudrait peut-être que je mette un peu d'huile là-dedans, hein. C'est chelou tout ce bouquin. Nouvelle de l'écrivain français Maurice Pons, dont la méthode consistait à savoir se retenir d'écrire par l'obstination forcenée dans le désœuvrement, la contrainte dans la rêverie. Car, disait-il, avant d'écrire un nouveau livre, il faut savoir attendre d'avoir beaucoup changé. Je ne l'ai pas connu, mais j'aime déjà beaucoup cet homme. Maurice Pons, dont je vous parlais déjà en fin de semaine dernière, via le recueil « Délicieuse frayeur » publié en 2006 aux éditions Le Dilettante, un recueil qui rassemble une petite dizaine de nouvelles à chute, après « La vallée » et ses montagnards pressés d'en finir avec un hiver sans fin, texte qui servit de matrice à son roman le plus célèbre, « Les saisons », j'aimerais ouvrir pour vous « La fenêtre », une histoire tendre et très triste, dont la première publication remonte aux années 50, semble-t-il, dans les colonnes du Figaro littéraire. L'histoire se déroule dans une chambre d'hôpital qui ne possède qu'une seule fenêtre. Dans cette chambre, il y a quatre patients, quatre enfants, tous très malades. Ces enfants ne peuvent se déplacer et sont obligés de rester alités. Trois d'entre eux demandent à celui dont le lit est près de la fenêtre de décrire ce qu'il voit pour briser la monotonie de cette chambre blanche. Et celui qui est près de la fenêtre ne répond presque rien, sauf une fois quand il leur apprend qu'il voit de la neige. Un jour, celui-ci meurt et l'un des trois autres, qui se prénomme Franz, prend sa place près de la fenêtre. En découvrant ce qu'on peut voir par la fenêtre, Franz pleure toute une journée, puis le lendemain matin, il se met à expliquer aux deux autres toutes les merveilles qui se trament dans la rue, la beauté des passantes, les activités des commerçants, les enfants qui jouent dans le parc juste en bas. Les deux autres, qui s'appellent eux Albert et Gabriel, écoutent les descriptions de Franz avec beaucoup d'attention, beaucoup de plaisir, puis un jour, Franz se guérit et il doit quitter la chambre. C'est donc au tour d'Albert de s'installer près de la fenêtre, mais Albert rechigne un peu à raconter ce qu'il voit, lui. Mais pourquoi, à votre avis?
Vous n'avez plus le temps de lire? Nova chausse ses lunettes et vous ouvre les portes de sa très très grande bibliothèque.
Tu ne me dis rien, Albert ? Gémissait Gabriel. Tu ne m'as même pas dit si tu avais revu Anne-Lise. Mais si, je l'ai vue. Tu sais, elle n'est pas si jolie que ça. Franz exagérait toujours. C'est bien une fille, comme en ont les marins. Et les petits garçons du jeudi ? Tu ne me dis pas à quoi ils jouent maintenant ? Ah oui, les petits garçons. Ils ne viennent plus très souvent. Il fait si chaud l'après-midi. Tout de même, il y a de l'eau dans les bassins du parc. Ils pourraient faire nager leur bateau ? Oui, évidemment, ils pourraient. Il y a de l'eau dans les bassins. Comme le jeu était triste avec Albert, Gabriel en aurait pleuré. Ah ! Plutôt que d'essayer encore de lui arracher des détails morts, il préférait fermer les yeux dans son lit et se rappeler les paroles toujours chantantes que récitait Franz au petit matin. « Voici que passent les arroseuses, fières jardinières des pavés. On entend grincer les trames, ils vont donner le la » dans toute la ville. Ah, qu'il puisse bientôt lui aussi se lever, se disait-il, et il marcherait jusqu'à cette fenêtre. Il pourrait enfin aller cueillir lui aussi ces images que Franz avait semées dans la ville. Hélas, les mois passaient, qu'il le trouvait toujours dans l'immobilité d'une planche. Déjà, Albert allait pouvoir à son tour quitter la chambre. Lui, Gabriel, n'avait pas encore la force de prendre seul un mouchoir. « Adieu, Gabriel !» lui dit en partant son dernier compagnon. « Je n'aurais pas voulu te faire tant de peine, mais c'est si difficile, tu sais, de raconter ce qu'on voit. Quand tu seras guéri, tu me pardonneras. » Et Gabriel resta longtemps seul dans la chambre, en face de son mur blanc. Il devenait chaque jour plus triste,
Et quand de nouveaux malades arrivèrent dans la chambre, il n'eut pas le cœur de recommencer avec eux le jeu de la fenêtre. Il craignait trop qu'un maladroit ne vînt encore abîmer les images que lui avait laissées Franz d'une ville transparente et heureuse qu'il revoyait chaque jour dans le silence de ses rêves. « Quand je serai sauvé, se disait-il, je retrouverai Franz et le soir, nous irons flâner à travers la ville. Nous nous assoirons sur un banc du parc et peut-être, de cette même chambre, les malades seront heureux de nous voir passer sous leurs fenêtres. Ils nous attendront chaque jour et peut-être nous donneront-ils des noms. » Mais Gabriel ne guérissait pas. Il s'affaiblissait de jour en jour et l'immobilité des pierres le gagnait tout entier. Il délirait de longues heures, parlait de Gerbrand, le marin, et des cloches de Saint-Stéphane. Puis il suppliait qu'on le menât près de la fenêtre. Le malade était intransportable et le docteur le savait bien, qui n'espérait pour lui que l'impossible. Mais quoi ? Il faisait si doux dehors. Avec d'infinies précautions, le docteur fit pousser le lit vers la fenêtre ouverte et Gabriel, enfin, après ses mois d'attente fébrile, put à son tour porter ses regards sur le monde d'au-delà les vitres. Devant lui, de l'autre côté d'une rue sombre, il vit un immense mur de briques qui fermait la vue jusqu'au ciel. Mais Gabriel ne savait plus s'il était encore sur cette terre.
Nova Book Box. Longtemps, je me suis couché de bonne humeur.
Pour se rincer les yeux de toute cette tristesse, il faudrait peut-être s'imaginer non pas comme quatre enfants pauvres et malades dans une chambre d'hôpital étroite, non, ça fait trop Princesse Sarah, on pourrait plutôt se rêver héritier ou héritière d'une fortune colossale pour ensuite tenter de réfléchir à ce qu'on ferait d'une telle somme, ce que tout ce pognon modifierait dans notre rapport aux autres, est-ce que ça ferait de moi, de vous, un connard égoïste ou au contraire un philanthrope qui sait regarder par la fenêtre et aller au contact des moins bien lotis pour les aider. Allez, viens, on y réfléchit. En écoutant l'original de ce hit intitulé « Rich Girl » repris avec succès par Yves et Gwen Stefani, mais que l'on doit au départ à ce duo de Jamaïcaines en 1993, Lucci Liu et Michi Wan.
Big up all ghetto youth on a rich and sweet. All massive and crew, Michi and Lucci Liu just passing through.
If I was a wealthy girl. get this thing. Worldwide thing, this is a worldwide thing. Rich is getting richer while the poor get this thing. Reap your reap, but you never did so. Rich today, you could be poor tomorrow. Mind your back and watch your enemies grow. Money, it is nice, but can lead to sorrow.
Na 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 na.
Allez, allez, Nova Book Box, allez, on se bouscule les vis et les boulons. Les auditeurs ne doivent pas attendre, je t'en supplie. Offre-nous une nouvelle archive piochée parmi 6700 lectures, s'il te plaît.
Le secret d'une vie bien remplie est de vivre et de frayer avec les autres, comme si demain, ils risquaient de ne pas être là, comme si vous risquiez de ne pas être là. Cela élimine le vice des tergiversations, le péché de remettre à plus tard, les communions manquées. Nous allons maintenant nous mettre en communion avec le cœur et la trajectoire d'Anaïs Nin, l'auteur des quelques lignes que je viens de vous lire, femme de lettres américaine d'origine franco-cubaine en 1903, auteur d'un nombre considérable de romans, qui doit notamment sa curiosité à de très nombreux romans érotiques, ainsi qu'à la publication de ses journaux intimes, où elle se révéla pleinement en femme d'aventure, au sens amoureux du terme, en menteuse aussi, qui est le propre de l'écrivain, mais en menteuse organisée. Elle disposait, par exemple, d'un système de fiches classées qu'elle nommait sa « lie box », sa boîte à mensonges, qui ne la quittait jamais, où elle consignait les différentes histoires racontées aux différentes personnes pour ne pas les confondre et surtout pour ne pas être confondue. Pour nous parler d'Anaïs Nin, je vous demande de faire un triomphe à notre chroniqueur impossible à confondre entre mille, Jean Rouseau.
Jean Rouseau a tort d'avoir toujours raison, alors laissez-le parler.
Anaïs Nin, écrivaine, muse, poétesse, née à Neuilly en 1903 et morte à Los Angeles en 1977. C'est une Américaine d'origine franco-cubaine. Son père était compositeur de musique. Dès ses 20 ans, à peine expérimentée de ses séjours un peu à New York et Paris, et puis mariée pour un temps, elle devient l'amie ou la maîtresse d'écrivains. Antonin Artaud, Henri Miller, Ed Wilson, Gore Vidal, James Agee, Laurence Durel et d'autres. Très marquée par Henri Miller, elle disait d'ailleurs « Je n'ai jamais réussi à vivre comme lui, pleinement, avec insouciance, etc. » Mais sa quête de création ne cessera plus. Remariée à un banquier cool et aisé, elle pourra continuer un peu partout d'aller traquer, et notamment à New York, cette bohème dont elle rêve et qui est devenue son obsession et aussi son obsession des relations humaines. Dès les années 20 puis les années 30, elle est frappée, comme beaucoup d'autres, par la nouvelle culture des sphères artistiques. Elle est très attirée, irrésistiblement, et en dehors de ses premiers livres et romans, son journal, qu'elle va faire de manière privée en 4 ou 5 tomes, me paraît tout expliqué et mérité d'être compris. notamment ces années, dont je vous dis 30-40, dont la somme de cette culture se fait à ce moment-là, culture à part, anti-système, et ce que Henri Miller a brillamment lancé avec quelques amis, Laurence Durel, D.H. Lawrence, etc. C'est-à-dire l'esprit libertaire, international, de ces Américains européens, surtout européens, ouverts aux autres cultures. La culture du Moyen-Orient, puis de l'Hindou, de l'Asie, pour une vie plus épanouie et une conscience surtout plus cosmique. Le système occidental est en train de flancher et cette café society, cette élite intellectuelle et artistique aussi, va tout prendre en même temps sur la tête. Sexualité, drogue, psychanalyse, danse, sexe, contestation, philosophie orientale, mysticisme, musique, cinéma, photo. Je pourrais continuer comme ça. C'est vraiment la découverte de la culture moderne. Toucher à tout, contester tout, au point que toujours Anaïs Nin va passer son temps entre quelques romans érotico-poétiques, etc., à se chercher. Et elle le fait avec d'autres artistes, écrivains, éditeurs, critiques, homosexuels dont elle s'entoure. Assez vite, cette starfuckeuse, pardon l'expression, va devenir curieusement culte, car les années passent, elle a connu les plus grands. Elle a fait des rencontres avec les monuments littéraires. Mais dans le journal, elle va raconter finalement assez simplement et honnêtement, un peu à l'américaine, comme ça, son quotidien. Quotidien qui est déjà fantasmé, déformé. Et si on lui fait une réputation comme ça, très sulfureuse, de bisexuelle et tout ce qui est faux d'ailleurs, il est vrai qu'elle avait quand même beaucoup de tempérament et qu'elle n'était pas très farouche. Mais son journal, qui était prévu pour ne pas être publié, et dont il a fallu d'ailleurs attendre la mort de son mari et certains éditeurs pour commencer à en sortir des morceaux, nous annonce bien la suite. Les beatniks, les hipsters, le jazz, la route, les hippies qui vont puiser dans cette forme de vie artistique, tout en expérience, en intellectualisation du monde, puis en fête, petit trip, petit voyage, vie en bande, bande où l'on se drague, s'essaye, se provoque, où on s'exploite et parfois même se détruit. Psychanalyse, symbolisme, libération du corps, des femmes, des homosexuels, encore poursuivis à l'époque. Voilà, tous les éléments de la contre-culture sont déjà là et Anaïs Nin, pour cette raison, avec cette passion et cette volonté de fourmi qu'elle a de vivre toutes ces expériences, font d'elle une pionnière, vraiment une précurseuse dont on a gardé uniquement dans la tête le sexe et l'érotisme, alors qu'elle a tout connu. Elle a connu aussi, elle le raconte très bien dans son journal, l'envers du décor de l'underground avec ses escrocs, ses pique-assiettes, ses gourous destructeurs et toute une sarabande de paumés, de profiteurs, de ce qu'on appelle aujourd'hui des toxiques, qui sont d'ailleurs les anticorps indispensables de cette culture moderne et éclatée.
Nova Book Box, l'hôtel du livre-échange.
Femme puissante, suite après Anaïs Nin, présentée par Jean Rouzeau, place à trois femmes puissantes avec le retour du trio féminin israélien Hawa via cette chanson épique intitulée Al-Azad, dans laquelle les trois sœurs Haïm racontent le périple de leur arrière-grand-mère, une réfugiée yéménite, chanson tirée de leur second album Baiti Fi Razi, qui vient de paraître.
وحدي يا ليلى انا غازيه ليلى وهدى جبل
m'en reste un jeton à glisser dans la fente du jukebox littéraire de Radio Nova. Parce qu'en fait, au départ, ça marche avec des jetons, mais j'ai réussi à m'arranger en triturant quelques câbles et en revissant des fils avec une clé de 12, enfin, pour pouvoir me passer les jetons. Mais c'est vrai que c'est sympa quand on glisse un jeton dans le jukebox, comme dans les diners américains. Bon, allez, oui, hop, j'y vais. Vous allez entendre dans quelques instants un texte de la célèbre Louise Michel, cette institutrice féministe qui fut l'une des grandes figures de l'anarchie et de la Commune de Paris, qui fut surveillée par la police et emprisonnée à plusieurs reprises, mais qui resta militante jusqu'à sa mort à 74 ans. Le texte qui suit est une plaidoirie prononcée par Louise Michel en 1887 en faveur du drapeau noir. Sachez que le drapeau noir a fait sa première apparition officielle dans une manifestation de personnes sans travail aux Invalides à Paris en mars 1883 lors d'un meeting organisé par le syndicat des menuisiers. Louise Michel y arborait pour la première fois un drapeau improvisé à partir d'un vieux jupon noir fixé sur un manche à balai. Le texte est lu par la comédienne Audrey Vernon, également auteur de spectacles sur Karl Marx ou Fukushima. On écoute ça. Je vous explique juste après d'où provient cette lecture. À écouter le point levé.
Nova Book Box, c'est l'amour livre.
C'est un véritable procès politique qui nous est fait. Ce n'est pas nous qu'on poursuit. C'est le parti anarchiste que l'on poursuit en nous. Nous avons pris le drapeau noir parce que la manifestation devait être essentiellement pacifique. Parce que c'est le drapeau noir des grèves, le drapeau de ceux qui ont faim. Pouvions-nous en prendre un autre ? Le drapeau rouge est cloué dans les cimetières et on ne doit le reprendre que quand on peut le défendre. Or, nous ne le pouvions pas. Je vous l'ai dit et je le répète. C'était une manifestation essentiellement pacifique. Pourquoi m'a-t-on arrêté ? J'ai parcouru l'Europe disant que je ne reconnaissais pas de frontières, disant que l'humanité entière a droit à l'héritage de l'humanité. Et cet héritage, il n'appartiendra pas à nous habitués à vivre dans l'esclavage, mais à ceux qui auront la liberté et qui sauront en jouir. Voilà comment nous défendons la République. Et quand on nous dit que nous sommes ses ennemis, n'avons qu'une chose à répondre, c'est que nous l'avons fondée sur 35 000 de nos cadavres. On a acquitté Monsieur Bonaparte et on nous poursuit. Je pardonne à ceux qui commettent le crime, mais je ne pardonne pas le crime. Est-ce que ce n'est pas la loi des forts qui nous domine ? Nous voulons la remplacer par le droit, et c'est là tout notre crime. Au-dessus des tribunaux, au-delà des 20 ans de bagne que vous pouvez prononcer, au-delà même de l'éternité du bagne, si vous voulez, je vois l'aurore de la liberté et de l'égalité qui se lève. Et tenez, vous aussi vous en êtes las. Vous en êtes écœuré de ce qui se passe autour de vous. Peut-on voir de sang-froid le prolétaire souffrir constamment de la faim pendant que d'autres se gorgent? Nous savions que la manifestation des Invalides n'aboutirait pas. Et cependant, il fallait y aller. Nous sommes aujourd'hui en pleine misère. Je n'ai pas voulu que le cri des travailleurs fût perdu. Vous ferez de moi ce que vous voudrez. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'une grande partie de la France, d'une grande partie du monde, car on devient de plus en plus anarchiste. Et c'est pour cela que nous marchons pleins de confiance vers l'avenir. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière. Il y aurait la vérité. Il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. Monsieur l'avocat général m'accusait de vouloir être chef. J'ai trop d'orgueil pour cela. Je ne saurais m'abaisser. Et être chef, c'est s'abaisser. On ne connaît de patrie que pour en faire un foyer de guerre. On ne connaît de frontières que pour en faire l'objet de tripotage. La patrie, la famille, nous les concevons plus larges, plus étendues, voilà nos crimes. Nous sommes à une époque d'anxiété. Tout le monde cherche sa route. Nous dirons quand même, advienne que pourra. Que la liberté se fasse, que l'égalité se fasse, et nous serons heureux.
Nova Book Box, c'est comme un jukebox, mais avec des livres.
On est plus fort que les stars vêtus des noirs, la peau colorée, on porte l'espoir jusqu'à dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle, on chante le soir, on arrache la lune jusqu'à dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance de la vie. Quand on arrive en ville, il y a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande... Débordement.
On est plus fort que les stars vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle, on chante le soir, on arrache la lune jusque dans les étoiles. Sais-tu qui je suis? On s'en bat la schneck. Avec elle, avec lui, je te découpe en steak. Futur végétal, on est des centaines pressés à presser la pastèque. Ouais, c'est déjà la fête. La fin des Aztèques, futur végétatif. On fait du sale-sale, pétrole ou sniff. Mets du gel, du glitter sur les paupières. Tape les fesses dans la rue, les doigts en l'air. J'envoie des messages de paix pour le ferry. Pour les petits perdus de Bruxelles à Paris. Y'a tellement pas de lien, qu'est-ce qui nous retient? De pas manger les autres au lieu de ronger nos faims. Tu vas manger ma joie, boire le sang des six stars. Marée de corps arrive sur toi. Tu vas manger ma felicita. Ah, felicita. On est plus fort que les stars vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante les soirs, on arrache la lune jusque dans les étoiles. Dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement. Le monde demande. Débordement. Débordement. On est plus fort que les stars vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante le soir, on arrache la lune jusque dans les étoiles. Dans les étoiles. Hey. Et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande. Débordement, débordement. C'est la fiesta dans les rues. Carnaval des morts à corps perdu. Mariage plus de Bévue, enfant dispo à perte de vue. De quoi tu parles? Mission to Mars, crypto-monnaie, micro-ciblage et HFT. Coup d'état digital sur ton âme numérisable. L'eau goûte l'essence, l'air pue la merde. Eh, tout le monde se tait ou tout le monde se terre. On a quitté les réseaux, on équipe nos bodies sur des chars. Descente avec le pinko, occupation sur les boulevards. Lancement de malédiction sur ces crevards. Fais ta tenue comme tu fais ton armure. Regard, posture, after du siècle. À coup d'épée, ergo du siècle ou réalité. Midnight Sabbat, nuit sous les étoiles. Personne comprend, on abat les mirages. Le turfu on l'enrage. Serrer les unes aux autres dans ce virage. Serrer les unes aux autres dans ce virage. On reste serrer les unes aux autres dans ce virage. Serrer les unes aux autres.
soir on arrache la lune jusque dans les étoiles, dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande. Débordement, débordement. On est plus fort que les stars, vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle, on chante le soir, on arrache la lutte jusque dans les étoiles. Dans les étoiles, et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande. Débordement,
débordement, produit par Security DJ. Cette chanson entêtante, Débordement, de Lenny Bernet alias Jardin, extrait de son dernier mini-album One World, One Shit. L'émission de ce soir a été réalisée par Sylvain Clabeau. Ça va mieux, t'as l'air patraque mon grand, ça va? Bon, je crois qu'il est temps de rendre l'antenne, ce garçon ne va pas bien du tout. J'espère qu'il sera en meilleure forme demain, car demain nous avons rendez-vous, oh là là, pour une émission exceptionnelle, une émission dont vous êtes le héros, dont vous êtes les héroïnes. Chers auditeurs, vous connaissez les livres dont vous êtes le héros, le principe est simple, hein, ces livres dans le... remonte aux années 60 et qui ont connu le succès à partir de 1982 et la sortie du Sorcier de la Montagne de Feu. À la fin de chaque chapitre, vous avez un choix, deux choix, trois choix possibles et il faut faire le bon choix pour essayer d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Souvent, ce sont des romans d'heroic fantasy ou d'épouvante. Et bien demain soir, demain 18 juin de 21h à 22h, je vous propose dans la Bookbox de vivre une partie interactive de livres dont vous êtes le héros en direct au fil des intrigues épouvantables du Manoir de l'Enfer de Steve Jackson, un livre sorti en 1984, c'est un grand classique du genre. À tout moment, vous, chers auditeurs, vous pourrez nous appeler, vous pourrez participer le temps d'un Facebook Live ou appeler un numéro qui est en train de s'afficher en bas de votre écran pour suggérer un couloir à éviter, un tableau à inspecter ou un ennemi à contourner. Et pour cela, vous pourrez compter sur l'aide providentielle d'un fan avoué des livres dont vous êtes le héros, l'humoriste Haroun, qui sera en studio avec nous. Vous avez fait la plus grande erreur de votre vie en vous réfugiant dans le Manoir de l'Enfer. C'est l'appel du 18 juin. Soyez au rendez-vous demain de 21h à 22h. D'ici là, bonne nuit. Prenez des forces et à demain.
Nova Book Box, c'est comme un jukebox, mais avec des livres.